J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, bon un peu avant, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture, sans oublier nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 51e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir l'auteur tassilunois Jacques Maurice, dont le dernier roman en date, L'Ogue de la Part-Dieu, est paru le 16 octobre 2025 aux éditions André Audemars. Jacques, bonsoir.
Bonsoir Michel.
Vous étiez venu à notre rencontre le jeudi 14 mars 2024 et vous nous aviez présenté votre polar Pente Fatale, la 10e enquête du commissaire Sévrac, paru le 15 septembre 2023 aux éditions André Audemars. Il s'est écoulé un peu moins de 2 ans. On peut dire que vous n'avez pas chômé. De nouveaux romans, de nombreux salons et séances dédicaces, sans oublier quelques voyages à travers le monde. Votre vie de retraité n'est pas de tout repos.
On peut le dire, disons que je ne m'ennuie pas.
Alors, je parlais de salons et de séances dédicaces. Vous êtes un fidèle de Chapolard, du Salon du Livre d'Attigna, de Sandan-Cravienne, du Quai du Polar et de différents lieux, médiathèques et librairies indépendantes ou pas d'ailleurs. Vous avez construit votre réseau à travers le temps. Le nom de Jacques Maurice est connu et reconnu. Ça n'a pas toujours été le cas.
Ah non, j'ai réellement commencé déjà à dédicacer assez tard puisque... Puisque je pense que ma première dédicace remonte à 2009. Oui, c'est ça, 2009. Tassin la demi-lune, justement. Il y avait un salon du livre qui n'existe plus maintenant. Et à l'époque, j'avais 2 bouquins auto-édités et 3 bouquins auto-édités, dont Le Diable de mon chat, qui est le premier Sévrac et qui a commencé par être auto-édité avant d'être édité.
Alors que vous avez commencé à écrire en 1986.
Oui, j'ai commencé à écrire en 1986, mais les 7 Castillons que j'ai écrits entre 1986 et 2002-2003 n'avaient jamais trouvé d'éditeur et je les ai auto-édités.
Donc forcément, pas de salon ?
Pas de salon, et puis ça ne me venait pas trop à l'idée à l'époque quand j'étais en région parisienne. En fait, j'ai commencé à y penser en région lyonnaise parce que j'ai découvert qu'il y avait des salons littéraires.
Ah oui.
Oui,
ah.
Et puis parce que je me suis auto-édité à partir de cette époque-là aussi. Avant, je n'avais que mes papiers, hein, mes manuscrits. Je ne m'étais pas lancé dans l'auto-édition, donc je ne pouvais pas faire de salon tout bonnement.
Ah, donc vous avez écrit jusqu'à pendant des années pour vous ?
Oui, pour moi, oui.
Ah oui.
Oui, oui. Puis j'ai stocké. En plus, comme j'ai changé plusieurs fois de système d'exploitation, à chaque fois, il fallait que j'y retape, sinon je les perdais.
Alors, vous étiez invité le 19 avril 2025 à la 4e édition du Salon Cépage Noir du côté de Fuissé et du domaine Luquet en particulier. Vous qui n'hésitez jamais à sortir une bouteille de blanc lors des salons le midi, vous avez dû être frustré, tout est déjà sur place.
Oui, tout était déjà sur place, donc je n'ai pas eu besoin d'apporter ma glacière qui m'a rendu célèbre dans les salons.
Ah oui. Vous en avez profité pour remplir votre cave à vin avec les bouteilles du domaine Luquet ?
J'en ai acheté, mais pas trop. Pas trop, le coffre était déjà plein de livres.
Ah oui, faut faire des choix.
Oui.
Alors, un salon du roman noir, cépage noir avec du vin blanc, est-ce forcément antinomique ?
La preuve, non. Mais il n'y avait pas que du vin blanc, il y avait du rouge aussi.
Ouais, c'est pas ce qui se fait de mieux là-bas.
Oui, mais bon, il y avait les deux.
Ouais. Moi, j'ai plus retenu le blanc que le rouge.
Ouais. Ouais.
Alors, on parlait de vin. Celles et ceux qui vous connaissent donc, hein, savent que vous êtes un amateur de bonne chère et de bon vin. Lors des salons que vous fréquentez, les repas et les boissons sont-ils toujours à la hauteur de vos envies ?
C'est jamais de la haute gastronomie. Hein, et donc, il m'arrive assez souvent d'apporter mon propre repas.
Ah ouais ?
Ouais.
Très souvent ?
Très souvent.
Ouais.
On peut le dire.
Ouais.
Ouais.
Alors, vous êtes connu dans le milieu des salons pour partager vos boissons lors de la pause méritée du midi.
Oui.
Ou pour la pause méridienne et méritée du midi. Vous les réservez à vos lecteurs ou à vos voisins auteurs ?
En fait, malheureusement, les lecteurs passent alors que les auteurs restent en salon. Donc, c'est plutôt à mes collègues que j'offre l'apéro avec le saucisson.
Ouais.
Mais souvent, maintenant, d'autres amènent aussi de quoi partager.
Ouais.
Parce que c'est ce partage qui me plaît aussi dans cette idée.
Oui, c'est pas toujours les mêmes quand même.
Ouais. Non.
Ouais. Alors, on parlait de salons, de médiathèques, de librairies régionales. C'est un choix de votre part ou c'est plus compliqué d'être invité dans des lieux plus éloignés que Vienne, Attignat ou Fuissé? Votre étiquette d'auteur régional est bien collée?
Oui, c'est vraiment comme le sparadrap du capitaine Haddock. Il y a une espèce de... souvent de dédain pour l'auteur régional, ce qui me laisse un peu pantois, parce que, après tout, quand on écrit avec pour cadre Paris, on est un auteur local aussi. Mais voilà, c'est comme ça. Et comme mon éditeur, en plus, n'est pas connu, n'a pas de circuit de diffusion, c'est aussi un peu difficile de se faire connaître au-delà des limites de la région.
Ouais. Vous essayez ?
J'ai essayé. Ça n'a jamais été couronné de succès. Donc, en fait, je préfère être dans ma zone de confort, ne pas avoir beaucoup de kilomètres à faire. Voilà, ça ne me dérange pas non plus, fondamentalement.
Avec le temps, vous avez vos entrées. Il y a toujours des salons, des lieux qui vous résistent.
Je faisais 100% polar à Saint-Chef.
Ouais.
Je ne le fais plus parce qu'ils ont changé d'optique. Ils prennent maintenant essentiellement des auteurs nationaux, voire même internationaux. Il n'y a quasiment plus d'auteurs régionaux. Donc c'est un choix, je le respecte.
Alors, vous qui êtes régulièrement au Quai du Polar,
oui.
Le plus grand des festivals consacrés au roman noir, il y a des salons où vous rêvez d'y être.
Non, finalement, pour moi, le Graal, c'est les Quais du Polar, oui.
Ouais.
Oui. Et dans une moindre mesure, le festival, enfin pas dans une moindre mesure, le festival Sang d'encre aussi, qui est également un bel événement. Il est plus petit et donc plus chaleureux que ne sont les Quais du Polar, ouais. Aussi.
Mais il y a des salons, je sais pas, je pense aux salons qui se passent un peu partout, des salons du Polar.
Oui, il y en a un peu partout, des salons. Maintenant, je pense pas que ça soit à l'auteur de postuler. Théoriquement, c'est à l'éditeur de chercher des salons.
Déjà, ouais.
Voilà. Bon, mais comme je travaille avec un éditeur, on peut appeler ça un mono-éditeur puisqu'il travaille tout seul. Voilà, c'est un choix que j'ai fait. Je suis copain avec lui, je m'entends bien avec lui. Je ne cherche pas non plus à acquérir une notoriété nationale maintenant. Enfin, je suis bien dans le monde dans lequel je vis, qui me permet qu'on ne m'impose pas des dédicaces à l'autre bout de la France. Si j'étais édité par un éditeur national, dans le contrat, il faudrait que je me plie à certaines règles auxquelles je n'ai pas envie de me plier, en fait.
D'accord.
C'est un choix de vie aussi.
Mmh. À Quai du Polar, vous n'êtes pas au Palais de la Bourse, le bâtiment qui accueille les têtes d'affiche et les pseudo-têtes d'affiche. En tout cas, celles et ceux qui sont censés vendre le plus de livres.
Ouais.
On vous retrouve à l'Hôtel de Ville. Votre étiquette d'auteur lyonnais est décidément bien collée, là.
Absolument, oui. Oui, à l'atrium de l'Hôtel de Ville, je suis accueilli depuis plusieurs années déjà par la librairie Un Petit Noir. Qui a, elle, la possibilité de choisir ses auteurs, ce qui n'est pas le cas des libraires qui officient Place des Cordeliers.
Lors des salons, il vous arrive de jouer non pas à l'auteur, mais au lecteur ?
Oh, ça m'arrive d'acheter des polars à mes amis, à mes collègues, oui.
Ouais. Dans les salons, c'est l'occasion de rencontrer des autrices et des auteurs que vous appréciez tout particulièrement. Vous allongez votre palle, votre pile à lire ?
Pas trop, non, parce que je ne suis pas un grand lecteur, donc je suis assez éclectique et j'en ramène jamais plus d'un, en fait, à la fois.
Ah oui,
oui, parce qu'en plus, les piles de livres, par définition, ça a tendance à grimper et non pas à descendre.
Ben oui. Je parlais de voyage. Vous étiez dernièrement au Sénégal et à Chypre. Ils influencent forcément vos romans ?
Parfois, on les retrouve, par exemple, dans Mourir à Aîné, le prologue se passe à Minorque, où je venais de faire un séjour. Dernièrement, c'était pas à Minorque. Où est-ce que commence Gare au Broteau ? Voilà que j'ai un trou. Bah si, c'est
oui,
à Minorque.
C'est
à Minorque. Pardon, Mourir à Aîné, c'était en Andalousie. Voilà. Donc, deux fois, J'ai fait commencer mes polars dans un des endroits où j'avais voyagé, oui.
Donc prochainement, le commissaire Sévrac, aux alentours du Sénégal ou de Chypre ?
Voilà, peut-être. Au Sénégal.
Ouais, d'accord. Ah bien. Alors, côté écriture, vous ne vous êtes jamais... Vous n'êtes pas assagi, bien au contraire, puisque depuis votre venue le 14 mars 2024, votre maison d'édition a fait paraître deux nouveaux romans parus aux éditions André Audemars. Gare aux Breteaux, paru le 11 octobre 2024, et L'Ogre de la Part-Dieu, paru le 16 octobre 2025. Alors, votre travail avec Jean-Luc Taforo, le gérant des éditions André Audemars, a évolué avec le temps.
Oh, évoluer, oui, forcément, mais c'est un travail agréable, très fluide. Il me laisse écrire, je lui donne le tapuscrit. Il le relit, évidemment, il y a toute la phase correction, parce que j'ai beau utiliser des logiciels de correction, je laisse toujours passer des coquilles. Et donc, sur l'écriture pure, il fait assez peu de suggestions. C'est plus, oui, sur l'orthographe, la grammaire, qu'il peut y avoir des corrections. Et puis, pour les quelques points sur lesquels il hésite, on partage. Il me fait des propositions, j'accepte ou pas. Ou bien il me dit non, il faut faire comme ça, et auquel cas je respecte ce qu'il me demande. Voilà, donc c'est un travail très fluide, très agréable, que l'on fait lorsque le bouquin a été écrit. Et j'échange très peu avec lui tant que je suis en phase d'écriture. Ce qui ne m'empêche pas de le rencontrer, de faire une bouffe au restaurant avec lui, mais ce n'est pas pour parler de ce que je suis en train d'écrire.
Et il se permet de rajouter des notes de bas de page parfois, alors, c'est ça ?
Alors,
des petits commentaires.
C'est pas exactement ça. En fait, c'est moi qui les ajoute en l'impliquant.
D'accord.
En imaginant un dialogue entre lui et moi, mais c'est moi qui fais les dialogues. Ça le fait d'ailleurs beaucoup rigoler. Et il en rajoute parfois des notes de bas de page, mais c'est très rare.
Alors, le premier des deux romans est Gare aux Breteaux, un jeu de mots bien à vous, hein, puisque cette gare historique est fermée depuis le 13 juin 1983.
Ouais.
Pouvez-vous nous en raconter le début de l'intrigue ?
Alors, début de l'intrigue, justement, ça se passe à Minorque. On retrouve le corps d'un journaliste français d'investigation au bas d'une falaise. Et la police minorquine, je crois que c'est ça, minorquine, conclut d'abord au suicide. Mais l'épouse du journaliste, lui, elle, n'y croit pas, ne pense pas que son mari ait pu se suicider, et donc dépose en France une plainte avec constitution de partie civile, ce qui oblige le parquet à déclencher une enquête. Et on envoie donc mon malheureux commissaire faire un aller-retour à Minorque pour voir les lieux et de voir ce qui s'est passé. Et il revient avec l'idée qu'effectivement, ça ressemble pas trop à un suicide. Et voilà, après ça déroule.
Alors, vous rendez un hommage à la gare des Breteaux, superbe bâtiment avec une halle métallique, et à un quartier de Lyon connu pour son architecture et bien évidemment ses restaurants, dont une brasserie Bocuse. Une gare et un quartier qui se sont développés grâce à l'arrivée du train qui, par Dieu et TGV oblige, ne fait plus que passer.
Exactement.
Plus. Un quartier qui a su garder son cachet.
Oui, c'est sûr qu'il est resté dans son jus haussmannien. C'est assez remarquable, mais ce n'est pas le seul de Lyon. Hein. Le 6e, c'est pareil. Et il est vraiment resté dans son jus, mais c'est un quartier aussi très bourgeois. Et donc, il y a peu de raisons que ça change.
Alors, on voyage beaucoup, hein, en tout cas, un peu plus loin que d'habitude, dans Gare aux Breteaux, puisque le commissaire Sévrac enquête à Minorque avec, comme c'est étrange, une collègue des Baléares.
Oui.
Étrange. Culbuto et son équipe ont moins de chance puisqu'ils se rendent dans l'Ain, dans l'Est lyonnais et dans l'Isère, le département de votre enfance. De votre naissance, pardon.
De ma naissance, oui.
De votre naissance, pardon. Oui, de votre enfance, mais c'était court.
Oui, je suis court mais bon.
Voilà. Vous réservez toujours le meilleur pour le commissaire.
Ça n'empêche pas Culbuto de faire quelques escales au cours de ses enquêtes. Hein. Donc... Il n'est pas à plaindre.
Ouais. Mais quand même, quoi.
Culbuto ne va pas à Minorque, mais enfin, c'est normal que ce soit le chef qui y aille, bon sang. Il faut quand même que ça serve à quelque chose d'être patron.
Donc, je parlais de l'Isère, Culbuto et son équipe se rendent à Saint-Chef,
oui.
Hein, où se déroule tous les ans le salon 100% Polar.
Voilà.
Alors, c'est un hasard ou c'est un clin d'œil à Gaël Perrin-Guillet ?
Oh, c'est plutôt un clin d'œil à Saint-Chef.
Ouais.
Et à mon affection pour San Antonio.
Ah oui, bah oui.
Qui est mon aspirateur.
Ben oui, exactement.
Après, ah, Gaël, oui, ça peut être aussi pour elle. Mais...
Voilà. C'est aussi une ancienne autrice des auditions, André Audemars.
Non.
J'ai cru lire ça.
Non, elle n'a jamais été chez Tafo.
Eh ben, j'ai dit des bêtises.
C'est trop grave.
Non. Alors, une de vos marques de fabrique dans vos romans est l'histoire de deux enquêtes en parallèle.
Oui.
Qui vont peu à peu se rejoindre ou pas.
Ou pas.
C'est pour que l'équipe de Sévrac ne se tourne pas les pouces quand le commissaire enquête, mange, boit ou baise.
Vous y allez un peu fort.
C'est vrai.
Parce que quand même, si on regarde Roboto, il donne beaucoup de lui, dans tous les sens du terme. Mais j'aime bien le principe des deux intrigues. Déjà, ça me permet de passer de l'une à l'autre et donc moi-même de ne pas m'embêter. Mm-hmm. Et puis, bah, justement, ça permet au lecteur aussi de sauter de l'une à l'autre et de garder un peu de la dynamique dans l'écriture. J'aime bien ce principe et je crois que la plupart des Sévrac, j'y ai recouru pour la plupart des Sévrac.
Votre deuxième roman, L'Ogue de la Part-Dieu, est paru le 16 octobre 2025 aux éditions André Marre. Alors, pouvez-vous, en quelques mots, nous raconter les intrigues? Parce qu'il y en a au moins deux.
Voilà, on retrouve là ce principe de deux intrigues et je crois que je l'ai poussé assez loin. Alors, il y a l'intrigue qui sert pour le titre, qui commence par la découverte d'une partie d'une femme qui a été découpée dans des sacs poubelles en face de l'hôtel de la Métropole à Lyon. Et donc, ce drame va être rapproché par le parquet de deux disparitions de femmes qui ont un âge similaire, qui ont disparu et qui habitaient dans le même quartier. Et donc, on va découvrir peu à peu qu'effectivement, ces trois assassinats sont liés. Et c'est donc une des deux intrigues de L'Ogre de la Part-Dieu. La seconde, je dirais que cette intrigue, la première intrigue, c'est une intrigue policière d'enquête. Donc, même si ça aboutit à la fin, c'est du plus long terme avec ça serait certainement embêtant de la suivre de bout en bout sans qu'il y ait autre chose. C'est pour ça que j'ai imaginé cette deuxième intrigue qui se suit en parallèle et qui finalement occupe plus de place que l'autre. Parce qu'elle est au jour le jour, c'est un petit dealer minable qui se fait piquer sa recette, qui se retrouve bien emmerdé parce qu'il doit la donner à son dealer en chef, lequel est un cruel et qui ne va pas lui faire de cadeau s'il ne lui donne pas le pognon. Donc il va rechercher celle qui lui a fauché le fric et en la recherchant, en fait, il va... petit à petit faire apparaître sa face vraiment très sombre. Ça va être une course-poursuite entre la police et lui, et à chaque étape, un meurtre ou un crime. Voilà.
Alors, même si les histoires de vos romans ne se déroulent pas uniquement dans le lieu qui figure dans les titres, pourquoi avoir choisi le quartier de la Part-Dieu? Son surnom, le crayon, vous a attiré, vous, l'auteur?
Ah ben oui, le crayon sur l'oreille, bien sûr. Enfin, ça doit peser lourd,
oui.
Vu la taille de l'engin. Non, en fait, c'est parti un peu de Brotto, la gare des Brotto. Comme vous l'avez dit, elle a cessé de fonctionner pour laisser la place au TGV et à la gare de la Part-Dieu. Donc on s'est dit, avec Jean-Luc Tafoureau, l'éditeur, on va continuer le quartier des gares. Donc voilà, la Part-Dieu. Mais la Part-Dieu, c'est pas que la gare et pas que le quartier d'affaires avec ses tours. C'est aussi tout un quartier qui est plus proche du Rhône, qui est plus ancien, beaucoup plus ancien, qui date de la fin du 19e. Il est très mité, hein, y a aussi des constructions plus récentes et pas très belles, avec des endroits de vie assez agréables. Et donc c'est aussi dans ce quartier-là que j'ai traîné mes guêtres et que mes policiers traînent leur enquête.
Mmh. Alors, L'Ogue de la Part-Dieu, contrairement à la photo de votre dernier roman, n'est pas la tour Part-Dieu, mais un meurtrier qui assassine des femmes.
Oui.
Assassine des femmes. En quoi la tour fait office d'ogre? Certes, elle est géante, effrayante, mais elle ne mange de chair. Elle mange pas de chair humaine, et celle des enfants en particulier.
Alors pourquoi? Parce que c'est quand même je crois que c'est l'élément emblématique de la Part-Dieu, ce crayon. La gare n'a aucun intérêt, même maintenant qu'elle est rénovée, elle ne présente aucun intérêt architectural. Enfin,
ah oui.
Je suis désolé
ah oui,
pour...
Ah oui.
c'est vraiment déjà le parfait exemple de l'architecture bétonnée de la fin des années 60, enfin des années 70, mais qui s'est prolongée au début des années 80. Et même rénové avec son grand hall vitré, ça n'inspire pas. Et ben, le quartier que j'ai décrit n'a pas de lieu emblématique qui soit suffisamment fort pour que ça puisse faire la couverture du bouquin. Donc il est resté le crayon, effectivement, et on voit à côté du crayon une ou deux autres tours qui lui font le pendant. C'est très minéral, plus que les autres couvertures. Il y a un côté assez brutal qui correspond bien avec la brutalité de mon ogre.
Ouais, ouais. Le quartier de la Part-Dieu est en travaux depuis quelques années et il n'est pas facile de circuler et de s'y balader. Les repérages ont été faciles ?
Pas toujours. Pas toujours. Je fais vivre à mes enquêteurs quelques anecdotes que j'ai vécues. Effectivement, de quartiers où on peut à peine circuler à pied parce qu'on crée des pistes cyclables. On gêne, en le faisant, les voitures qui ont du mal à circuler. Bon. Mais on gêne aussi et surtout les piétons qui à certains endroits, c'est pratiquement impossible de passer facilement. Enfin, c'était, maintenant ça commence à s'arranger avec l'approche des élections. Mmh. Et voilà, donc ça m'a particulièrement chagriné quand même parce qu'on a des beaux discours sur l'inclusivité. Mais quand on a des trottoirs défoncés dans cet état-là, je me demande comment font les handicapés, les gens qui sont à fauteuil roulant et les personnes âgées même pour se déplacer.
Oui. C'est... Et carrément les piétons parce que...
Je pense déjà à ces gens qui ont déjà du mal à se déplacer.
Oui, oui. Enfin, je veux dire, même les piétons, les vélos, c'est un peu les rois... C'est dangereux, quoi.
C'est dangereux, les trottinettes électriques aussi.
C'est dangereux de marcher sur des trottoirs réservés aux piétons. Voilà.
Oui, voilà, exactement.
Il n'y a pas qu'à Bourg-en-Bresse. Mais ça, c'est général, je pense. Cet univers de travaux et de béton à la Part-Dieu est propice à un roman policier. Il est plus facile pour un meurtrier ou un trafiquant de s'y cacher.
Alors, je ne suis pas persuadé que ça a un rapport. Mais c'est effectivement, je parlais de brutalité, la tour, cette espèce d'aspect vertical brutal. Mais c'est vrai que les travaux en permanence, défonçage de rue, de bâtiments, etc., ça a aussi un caractère brutal qui peut se rapprocher d'un décor de polar. Maintenant, mon meurtrier ne se cache pas spécialement, puisqu'il n'apparaît pas, en fait, ses crimes. Il s'arrange bien pour ne pas pouvoir être identifiable.
Oui. Le commissaire Sévrac semble quelque peu stabilisé, même si à son âge, on ne se refait pas. Même s'il est toujours autant attiré par la gente féminine, je trouve qu'il apparaît moins chien fou, comme s'il s'était un petit peu assagi avec l'âge. Un petit peu.
Alors, il y a deux éléments qui sont un peu différents des précédents. Déjà, professionnellement, il est très en retrait. Les deux enquêtes sont suivies par ces deux groupes, celui de Culbuto, qui poursuit le petit dealer, et puis celui de Nicolas, qui vient d'accéder au grade de capitaine avec le départ de la capitaine Sensibon, qui est partie accoucher. Et donc, il les laisse travailler, en fait. Il intervient vraiment, même physiquement d'ailleurs, qu'à la fin, qu'au dénouement. Et puis, c'est vrai qu'il est peut-être moins sémillant qu'il ne l'est dans d'autres. Mais il y en a quand même une petite dose.
Oui.
Et sa vie de famille est aussi assez prégnante, comme dans les précédents, il commence à retrouver quand même un peu sa femme, même si celle-ci reste à Paris et lui à Lyon. Voilà, c'est ce qui, d'un certain côté, l'arrange.
Ouais. Bon, on a un peu l'impression que le commissaire, il devient un vrai commissaire ? C'est-à-dire moins sur le terrain, plus dans les bureaux ?
Ben oui, c'est ce que me disent les vrais flics. Ils me disent des commissaires comme le tien, ça a existé, mais ça n'existe malheureusement plus.
Et oui.
Mais bon, je ne vais pas dans celui que je suis en train d'écrire. Il reprend un peu de poil de la bête. Il est moins enfermé dans son bureau.
Bon, ça va. Dans l'ogre de la Part-Dieu, les deux principaux protagonistes, dont les deux criminels, plongent dans une noirceur qui ne semble pas avoir de fond. C'est facile de les faire descendre de plus en plus bas dans la violence.
Ben, y en a un qui est déjà complètement l'ogre, il est dans la violence. Je pense pas qu'il évolue au fil du... Il y est déjà complètement...
Je pense au petit dealer.
Ben alors le petit dealer, oui. En fait, c'est son côté schizophrène, le mauvais côté de son personnage qui prend petit à petit le dessus et qu'il ne pressentait peut-être même pas lui-même. Et il se rend compte aussi qu'il évolue, il se rend compte de sa descente, en fait. Sa descente vers de plus en plus de violence et de plus en plus de... Oui.
Ouais. Vous prenez un malin plaisir à utiliser des expressions de votre cru, hein, que vous êtes obligé d'expliquer, puisque vous puisez dans l'existant ou dans des mots que vous inventez. Votre éditeur n'hésite pas à rajouter ses commentaires. Tout est fait pour détendre le lecteur.
Oui. Hein.
C'est pour défendre une atmosphère forcément lourde ou l'atrocité de certains meurtres de l'attitude très dure des truands.
C'est pas forcément volontaire, c'est ma façon d'écrire. Je ne veux pas être dans le noir intégral. D'ailleurs, je me lance quand même pas. Les descriptions, même des corps démembrés, je ne rentre quand même pas dans des détails sordides comme certains peuvent le faire dans des descriptions de scènes d'autopsie où ils vont jusqu'au bout de l'horreur, en fait. Ouais. Donc j'essaye. C'est du roman noir. Il y a des scènes qui sont pas belles. Mais j'essaye, c'est un peu l'esprit San Antonio, j'essaye de marrer, de garder le plaisir et d'écrire et de rigoler, bien que ça soit noir. Et j'essaye de transmettre ça au lecteur.
Ça marche. Vous utilisez pas mal de mots aujourd'hui disparus ou presque du langage et pas uniquement lyonnais. Vous êtes parfois obligé de faire une explication de texte. Pour vous, la langue française est très riche et n'est pas une langue morte.
Non, absolument pas. Et d'ailleurs, on a intérêt à... les Québécois le font, à se passer des anglicismes qu'on a trop tendance à utiliser par facilité et à trouver des mots pour les remplacer. Alors l'Académie française s'en charge pour certains, ils ne sont pas toujours très, très goulayants ces mots-là. Et donc moi, mon modeste niveau, j'essaye d'en inventer. Voilà. Ouais. Ça m'amuse aussi et c'est mon petit combat pour la francophonie.
Alors, c'est pas parce qu'on écrit des romans noirs qu'on doit sacrifier notre langue. Et votre écriture est là pour le prouver. Raconter des histoires, c'est aussi respecter notre langue.
Oh ben bien sûr, oui. Ah, oui. Ouais. Il faut la traiter avec amour.
Alors, vos notes de bas de page sont aussi un moyen pour régler de façon humoristique vos comptes avec vos lecteurs et vos amis auteurs. Vos amis lyonnais se reconnaissent dans ces petits commentaires toujours de bon goût?
Ça les amuse.
Ouais. Ouais. Vous avez des réactions
Oui, parfois, oui. Ouais, ouais. Oui, oui. Ouais. Oui, ils aiment bien le système de bas de plage, oui, ça les amuse beaucoup.
Ouais. Alors, vous utilisez le terme « bougnoule » venant de la bouche d'un policier et vous précisez que vous êtes parfaitement conscient de la connotation raciste de ce terme. Vous rappelez à juste titre que ce terme est toujours utilisé par certains et qu'il serait donc contraire à la réalité de l'occulté. C'est très courageux de votre part. Vous rappelez à juste titre que certains Français et donc certains policiers sont racistes, même si 99,9% de l'ADN est rigoureusement identique entre deux êtres humains et qu'il n'existe qu'une seule race chez les hommes et chez les femmes.
Absolument, oui. Oui. Ouais. Mais je pense que ça ne sert à rien de jouer au vierge effarouché et d'interdire l'usage de certains mots qui sont toujours utilisés, à condition que l'auteur montre que ce n'est pas, en tout cas pour ma part, que ce n'est pas sa façon de penser, mais qu'il ne fait que traduire la réalité. Ouais. Et on n'en sortira pas de toute façon si on met du maquillage par-dessus... ce qui continue d'être. Enfin, ça me... je vais pas aller vers les changements de titre de livres, par exemple, pour se donner une espèce de virginité intellectuelle. C'est... Voilà, je trouve que c'est cacher la merde au chat pour...
Alors, la sonnerie du téléphone portable, son tel un tel, comme vous dites. Hein. Voilà, et un riff de Van Halen, c'est celui d'Eruption.
Oui. Oui. Absolument.
D'accord. Ça doit sacrément...
Ça doit pulser dans les oreilles.
Alors, vous écrivez des romans policiers depuis près de 40 ans.
Oui. Hein,
86-2026.
Voilà, c'est fait.
Ouais. Les gendarmes et les voleurs, les policiers et les criminels ont évolué. Leur mentalité également. Alors, qu'est-ce qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans vos romans? Les délits ont aussi évolué.
Les délits ont évolué, je ne suis pas certain... En tout cas, pour ce qui concerne ma première série, c'était un as de l'antiterrorisme, donc c'était basé sur des actes de terrorisme qui, dans les années 80, enfin de 80 à 2001, ont été quand même assez importants et assez répétés, de diverses origines. Là, je suis dans le polar classique, dans le noir classique, d'enquête, mais je pense que des démembreurs de femmes, il y en a toujours existé, des violeurs, il y en a toujours eu, des assassins par cupidité ou vengeance, il y en a toujours. Finalement, les ressorts, c'est toujours les mêmes. À part qu'il y a peut-être beaucoup plus maintenant prégnant le problème de la drogue qu'il y avait dans les années 80.
D'accord.
Le trafic de drogue, c'est quand même un des problèmes majeurs de notre société actuellement.
Ouais. Avec vos romans, vous dressez un portrait sans concession des criminels. Avec le temps, en quoi ils ont changé, les criminels ?
Après, c'est l'image qu'on peut s'en faire. Je pense que vous passiez des extraits des Tontons Flingueurs et de l'autre, là, avec Lino Ventura.
Ne nous fâchons pas.
Ne nous fâchons pas, oui.
Voilà.
Bon, c'était une image un peu romancée des truands qui avaient le sens de l'honneur. C'était peut-être vrai. Mais enfin, il n'en reste pas moins que quand il s'agissait de passer à la sulfateuse tout ce qui bougeait, ils étaient là. Bon, alors maintenant, il y a peut-être, encore une fois, dans le monde de la drogue, beaucoup plus de cruauté qu'il n'y en a jamais eu dans le crime. Enfin, quand on lit la façon dont ils éliminent des petits dealers qui ont perdu une poche de drogue, enfin, on a l'impression que là, pour le coup, la vie humaine n'a plus aucune valeur. Peut-être que c'est en ça que notre société, parce que c'est la société qui produit ça aussi, c'est empiré par rapport à il y a 40 ans.
La violence, elle aussi, à l'image de notre société, a franchi un cap.
Oui, je pense que les gens, en plus, sont fondamentalement de plus en plus violents moralement. C'est-à-dire que quand on lit sur les réseaux sociaux des échanges de gens qui ne sont pas d'accord entre eux, je trouve que ça atteint des niveaux de violence verbale et donc avec la possibilité de se transformer en violence physique qui est assez consternante.
Alors, comme à chacun de vos romans, vous promenez l'équipe du commissaire Sévrac à travers différents lieux et pas uniquement des villes. Vous qui aimez la marche à pied, il me semble, vous préférez l'air des villes ou l'air des campagnes ?
J'aime bien les deux. L'air de la campagne, c'est pour faire des randos, voir des beaux paysages, des beaux paysages naturels. La nature m'est très précieuse. Mais j'adore aussi la ville. J'ai vécu une bonne partie de ma vie quand même à Paris, enfin en région parisienne. Et donc j'ai toujours baigné dans cette atmosphère urbaine. Et j'adore me balader dans Lyon, mais j'adore me balader dans les villes que l'on découvre avec ma femme quand on va en voyage à l'étranger. On a passé aussi des séjours à Marseille, on revient beaucoup à Paris. Et à chaque fois, on marche énormément. On découvre la ville en marchant.
Ouais. Ça l'a fait 40 ans cette année que vous écrivez. Quel regard portez-vous sur votre parcours d'auteur ?
Quel regard ? Je pense que j'ai énormément évolué dans l'écriture. Quand je regarde mes premiers Castillons, bon, c'est une écriture un peu, comment dire, pas riche. Je ne sais pas si c'est le mien.
C'est pas grave.
Moins riche qu'elle ne l'est maintenant. J'ai beaucoup enrichi ma façon d'écrire, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Je pense que ça me permet aussi d'être moins strictement polar, d'écrire sur autre chose, dans mes descriptions de la ville, dans mes descriptions des gens, etc. D'être plus riche dans ce domaine de l'écriture.
40 ans d'écriture, oui, c'est autant que votre carrière professionnelle ou presque.
Oui.
Hein, même plus.
Même plus, oui.
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui est passé le plus vite ? Le travail ou l'écriture ?
Le travail, maintenant, il est derrière moi. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est le travail, puisque je suis toujours dans l'écriture. Mais l'écriture, j'espère que ça ne me quittera pas. Quand j'ai commencé à écrire, ça faisait un moment que j'avais envie d'écrire. Et donc, maintenant, c'est quand même mon activité de loisir. Ouais, oui, c'est pas la préférée, mais elle m'occupe beaucoup et elle me fait du bien aussi.
Vous voyez un jour, on sait bien qu'est-ce qui peut arrêter les gens d'écrire. Hein.
Je pense pas. Même si j'ai plus d'éditeur, je continuerai à écrire pour le seul plaisir d'écrire. Oui.
Ouais. Et pas uniquement des livres.
Pas uniquement des livres, non. Des carnets de voyage. Ouais.
Exactement. Vous avez déménagé en 2001 en région lyonnaise pour raisons professionnelles.
Oui.
Le commissaire Sévrac est né quelques temps après. Vous devez beaucoup à Lyon. C'est presque une seconde vie.
C'est une seconde vie. Oui. C'était un nouveau boulot. Enfin, j'ai accédé à des responsabilités. J'étais patron d'équipe. D'ailleurs, il ne m'appelait pas boss, il m'appelait patron. Je me suis trompé tout à l'heure. Oui, c'était un milieu différent et un lieu complètement différent. Et donc, oui, c'est une nouvelle vie.
Et si vous n'aviez pas pris votre pré-retraite en 2018, c'est vous qui l'avez écrit, hein, j'invente rien, votre carrière d'auteur aurait été la même?
Bah, disons que j'aurais continué à écrire un bouquin tous les deux ans au lieu d'en faire un tous les ans.
Alors, où nous emmènerez-vous lors de votre prochain roman? Est-ce qu'on peut le dire ou pas?
Oui, bah je l'ai commencé. Là. Il est avancé, mais pas tant que ça. Bon, ça tourne autour du quartier de Perrache, donc la troisième gare.
D'accord.
Après, j'en aurai fini avec le cycle des gares.
Oh bah, donc j'imagine que le commissaire Sévrac va aller manger du côté de la Brasserie Georges, non?
Bah voilà, oui.
Par exemple.
Bah, y a aussi le comptoir d'Abel, qui est dans le quartier d'Ainé, qui est juste à côté de Perrache.
On saura où retrouver le commissaire Sévrac. Voilà. Bien. Alors, tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicace. Il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure, sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates des prochaines séances dédicaces dans la région proche. Jacques, quel est votre dernier coup de cœur littéraire?
Ah, ça c'est une question, vous ne m'aviez pas...
Si, c'est la même qu'il y a deux ans.
La même qu'il y a deux ans.
Qu'il y a deux ans.
Ah, je suis en train de lire un livre, un polar qui se passe à Naples. Le commissaire, c'est pas Brunetti. Enfin là, vous me prenez tellement de cours que du coup... ça se passe entre les deux guerres, à Naples. J'ai été à Naples et j'adore cette ville. Et Maurizio, le commissaire, l'auteur, c'est Maurizio, donc c'est pas très loin de moi. Mm-hmm. Et je trouve ce polar génial parce qu'il décrit avec... alors c'est un pavé, mais il décrit avec une précision à la fois la ville, mais aussi ses habitants dans leurs différents costumes, si je puis dire. Donc les pauvres, et ils sont nombreux à Naples encore maintenant, mais ils étaient très nombreux. Leur vie misérable, les petits caïds de quartier qui en fait organisent et protège les habitants de ce quartier. Enfin, dans le terme protecteur, il y a aussi le fait de toucher du pognon, bien sûr. Et puis la grande bourgeoisie qui n'en a rien à cirer, qui vit dans des quartiers beaucoup plus agréables et qui enfin, c'est comme s'il y avait deux, enfin, c'est deux mondes qui ne se côtoient même pas, en fait. Voilà, et je trouve ce polar, c'est du polar social, en fait, hein, passionnant.
Côté proposition de la quinzaine, notons le livre d'Emmanuel Bergon, Alain Leprest, Soleil noir de la chanson, aux éditions L'Arme à temps. Le polar de Guillaume Clicquot, Prenez-moi pour une conne, aux éditions Pocket. Le roman de Coralie Cojol, Le loup qui te mangera, aux éditions Erol. Le livre de Roger Ekrich, La grande transformation du sommeil, aux éditions Amsterdam. Le thriller de Sébastien Vidal, De neige et de vent, aux éditions Le mot et le reste. Sébastien Vidal, vous connaissez?
Non.
Donc, ok. Le roman de Jean-Pierre Varnier, 10 ans de bonheur, aux éditions Cartala. Le thriller de Jean-Marc Desnaux, Mémoire de feu, aux éditions Tornada. Le roman de Corinne Simon, Incommensurable, aux éditions Maya. Le polar de Donna Leon, Le garçon qui ne parlait pas, aux éditions Point. Le roman de Soledad Lida, La fille de soi, aux éditions Maya. Le livre de Christian Côté-Aymard, vous connaissez de nom?
Oui.
Bien, qui sera notre prochain invité. Effet et prodige de la lune sur le destin d'un voyageur assoupi au visage souriant. Ça, c'est le premier bouquin. Suzy Barr et l'autre, c'est Chronique oyonnaxienne, tome 1. Boulevard de l'enfance, aux éditions Orage, Lagune, Express. Vous l'avez rencontré peut-être à Nantua, non, peut-être?
Non, ça ne me dit rien.
D'accord. Mais Christian Côté-Aymard, oui.
Probablement, mais alors... Me D'accord. rappeler où je rencontrais les gens.
Ah, c'était à Tignat. il y a deux ans.
Oui.
Voilà, le roman de José Marquez, il se gagne le bonheur aux éditions Nombre 7. Le livre de Erin Mirabeau, Le banquet des tueurs aux éditions L'Astre Bleu. Le roman de Mathieu Simonet, Le grain de beauté aux éditions Philippe Ray. Le polar de Lisa Gardner, 12 ans après aux éditions Albin Michel. Et le roman de Meredith Hall, Sans carte ni boussole aux éditions Philippe Ray. Pour terminer l'émission, bah tiens, les dates et rencontres de séances dédicaces, on annoncera les vôtres à la fin de l'émission parce qu'elles sont assez nombreuses.
Bien, j'ai retrouvé le nom du bouquin, c'est L'enfer du commissaire Ricciardi.
Voilà.
Voilà.
Alors les séances dédicaces, on va annoncer le premier, si vous voulez, samedi 14 février 2026.
Alors, salle polyvalente Villars-les-Dombes, salon du livre. De 9h30 à 18h, avec Laurine Léos, entre autres, Robert Ferrari, que je connais bien.
Bien sûr.
José Marquez, Lily Plume, que je connais aussi, Olivier Petiot.
À la salle d'Odé à Bourg-en-Bresse, Ziad Majeb à 17h, à l'initiative du collectif France-Palestine.
Le samedi 21 février, à l'espace André Malraux de Nantua. Et le 22 février, idem, donc les deux jours, 15e salon du livre de Nantua, 10h-18h.
Voilà.
Avec Christian Côté-Aymar, Philippe Debise, Hervé Letellier, rencontre à 16h30.
Le samedi,
Le samedi, oui. Et donc les mêmes le dimanche.
Voilà. Eh bien, Roman de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Jacques Maurice, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de Gare.
C'était avec plaisir. Merci Michel pour ton accueil.
Rappelons que votre dernier roman, L'Ogre de la Part-Dieu, est paru le 16 octobre 2025 aux éditions André Audemars. On peut se le procurer dans toutes les bonnes librairies, sans oublier vos autres romans.
Eh bien oui, les autres Sévrac sont tout aussi disponibles.
Ouais. Alors, on peut suivre votre actualité sur Internet. Alors attention, il y a un site Internet, jacques-maurice-polar.fr, sans oublier les inévitables réseaux sociaux. Et le site de votre maison d'édition, André Audemars, www.ao-edition.com. Et puis on vous retrouve prochainement en séance dédicace. Alors attention, il y en a un certain nombre. Le 29 mars à la salle des fêtes de Brindas.
De Brindas, oui.
Voilà, on dit Brindas
Brindas, je ne sais pas.
C'est comme Brindas, on prononce pas le X, alors de Brindas dans le Rhône, de 10h à 18h au salon de Brindas, les vendredis 3, samedi 4 et dimanche 5 avril.
Et Quai du Polar, Atrium de l'Hôtel de Ville.
Voilà, sur le stand de la librairie Un Petit Noir. Voilà, le 25 avril à l'Hôtel de Ville de Genat.
Alors, c'est à Genat, mais ce n'est pas l'hôtel de ville. Le lieu, pour l'instant, je ne le connais pas.
Ah, j'ai trouvé ça sur Internet.
Ah oui.
Ouais.
Alors, c'est peut-être à l'hôtel de ville. Mais
d'accord. C'est ce que j'ai trouvé sur leur site, je pense.
Ouais.
Au salon de Genat, de 10h à 18h. Et le samedi 16 mai 2026, au premier salon Noir Brume, à la Grenette, à Moirans, en montagne, de 10h à 18h.
Le premier,
premier salon. Et je sais, il y aura également Christophe Royer, par exemple.
Tout à fait.
Voilà. Le prochain invité de Roman de Gare, le jeudi 26 février 2026, sera l'auteur Christian Côté-Aymar. Il est d'origine oyonnaxienne et vit actuellement dans le Jura. Voilà. Il présentera ses derniers livres, L'Ange curieux et autres nouvelles, Suzy Barre et Ep, jeune homme, paru en 2025 aux éditions Orage Lagune Express. Jacques, bonne chance pour la suite de vos aventures d'auteur.
Merci.
Bonne chance pour la bonne séance de dédicace, bon salon.
Merci.
Bon voyage.
Et merci aussi.
Et à bientôt sur Radio B.
À bientôt.
À bientôt.
Bonsoir.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.